Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
Vous avez choisi d'écouter Nutri Radio, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez aller plus loin, soutenir Nutri Radio, rendez-vous sur nutritv.fr. Vous allez pouvoir retrouver des masterclass santé de référence, conçues et animées par des experts, ainsi que des émissions et des documentaires exclusifs. Il y a d'ailleurs une nouvelle masterclass qui est mise en ligne tous les 15 jours pour approfondir vos connaissances et puis surtout rester à la pointe de la santé intégrative. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Ambline, bonjour à tous.
Docteur Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio, comme chaque lundi de 10h à 11h. Merci beaucoup d'être avec nous, docteur. Alors, au-delà des mécanismes de détoxification déjà abordés dans les émissions précédentes, le foie mobilise encore d'autres stratégies essentielles pour défendre l'organisme face aux agressions quotidiennes. Et c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui.
Exactement. On avait vu donc la semaine dernière comment neutraliser dans le foie les polluants qu'on n'a pas pu éviter dans notre environnement. On n'a pas pu empêcher l'absorption, qu'on n'a pas pu bloquer dans le sang, éliminer. Et ceci via les voies de détoxification, vous rappelez, de phase 2, centrée sur le glutathion, notre détoxifiant universel. Mais le foie a, comme vous l'avez annoncé, Ambline, d'autres ressources aussi pour nous protéger. Il peut ainsi neutraliser de manière plus simple des contaminants en leur collant un petit groupe méthyl, c'est CH3, c'est juste deux molécules, enfin deux atomes collés, ça s'appelle la méthylation. Alors la plupart de ces groupes méthyl, nous les fabriquons nous-mêmes à partir d'un acide aminé. Vous rappelez ce que c'est, les acides aminés, les briquettes qui sont la digestion des protéines?
Oui.
Un acide aminé, lui, soufré, la méthionine. Grâce à l'intervention de deux vitamines, B9 et B12, cette méthionine va donner ce groupe méthyl qui fait énormément de choses, on va le voir. En effet, il est nécessaire, ce groupe méthyl, pour produire la majeure partie de nos neurotransmetteurs. Évidemment, vous comprenez que c'est important parce que c'est eux qui font passer toute l'info entre nos neurones. Il est important aussi pour nos membranes cellulaires, ce qui est important parce qu'il y a plein de protéines, des récepteurs, des transporteurs, etc., qui permettent aux cellules de communiquer entre elles. Et ils se collent soit sur des gènes, soit sur les protéines qui entourent les gènes, pour les rendre silencieux quand on n'a pas besoin qu'ils s'expriment. Une fois méthylés, les gènes sont compactés tellement que les messages qui normalement les activent ne peuvent plus les atteindre. Ils sont en quelque sorte scotchés. C'est l'un des mécanismes majeurs de, vous l'avez peut-être entendu ce mot déjà par le passé, de l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est que cette épigénétique? Par exemple, en ce moment, là, un temps printanier, c'est elle qui, avec l'arrivée du printemps, indique aux plantes que la température s'est élevée, qu'elles peuvent se remettre à produire des feuilles et des fleurs. Les rennes qui ont les yeux marrons l'été arrivent l'hiver, ils adoptent à ce moment-là, grâce à cette épigénétique, des yeux bleus pour voir dans la nuit polaire mieux. Si une femelle poisson clown dominante meurt, un des mâles grossit, devient capable d'être fécondé, de pondre des œufs, il est devenu femelle. Chez nous, on a plus l'impression que la couleur des yeux et le genre sont génétiquement programmés, ce qui est vrai, mais vous voyez que dans la nature, l'épigénétique a d'autres pouvoirs encore. Et puis, encore plus étonnant, j'ai trouvé que s'il fait plus chaud, le climat se réchauffe, des femelles oiseaux diamants d'Australie changent le chant qu'elles chantent d'habitude quand elles sont proches de ses œufs, et les petits vont ralentir leur croissance et rester plus petits après avoir éclos pour mieux s'adapter à des conditions plus difficiles.
Incroyable.
C'est tout ça, l'épigénétique, oui. Ah oui, c'est assez époustouflant. C'est vrai que, c'est à peine croyable, quoi. Mais bon, donc en fait, c'est cette épigénétique qui décide si un gène s'exprime ou pas. Et principalement, donc, via cette méthylation qui joue donc de multiples rôles cruciaux. Sans elle, en fait, on ne serait pas là. Parce qu'il faut des milliers d'années pour que les gènes évoluent. Par exemple, vous savez qu'en Europe, c'est les Scandinaves qui étaient dans les pays froids, qui avaient plus de mal à avoir des fruits et des légumes, tout ça, qui ont développé les produits laitiers. Mais ils ont mis 6000 ans à acquérir, via la sélection de leurs gènes, la capacité de digérer le lactose du lait. Alors, vous vous rendez compte que face à des changements qui peuvent être importants et rapides au quotidien, Nous n'avons pas le temps d'attendre que nos gènes évoluent quelques milliers d'années. Hein. Mmh. On ne sera plus là. Et de fait, tout changement d'environnement, d'exposition à des polluants, de luminosité, comme maintenant avec le printemps, d'alimentation, de niveau d'activité physique, de stress, de la qualité ou de la durée du sommeil, enfin tout quoi, nous nous adaptons très vite via notre épigénétique. Mais dites donc, c'est une bonne nouvelle ça, parce que jusqu'à présent, on a souvent surévalué l'importance des gènes, ce qui donne une impression de fatalité. Bon, on a de mauvais gènes, bon alors voilà, dans ma famille, on fait des AVC... Ça paraît, mais bon. En fait, l'épigénétique nous montre que, quels que soient nos gènes, nous pouvons, par des changements personnels tout à fait accessibles, hein, alimentation, environnement, mode de vie, qualité du sommeil, gestion du stress, etc., changer la façon dont ils s'expriment. D'ailleurs, c'était découvert par des chercheurs qui avaient dans leur labo, si vous voulez, la capacité de décrypter tout leur génome. Et hop, ils découvrent qu'ils ont des tares génétiques, ils devraient être très malades, et puis ils ne le sont pas du tout. C'est ce qui a mis sur la voie, si vous voulez, de rechercher cette épigénétique qui s'est avérée beaucoup plus importante. Ça a été une très grosse surprise dans les percées scientifiques et médicales.
Tant mieux, du coup.
Eh bien, oui, ça donne des moyens, ça nous donne des moyens à chacun, hein, de faire exprimer nos gènes, même s'ils ne sont pas les meilleurs, de bonne façon.
Et alors, comment améliorer nos capacités si importantes de méthylation ?
Eh bien, il faudrait déjà être capable de méthyler, hein, parce que cette méthylation, elle est issue surtout d'un cycle qu'on appelle le cycle de la méthylation. Et ce cycle, il part d'un acide aminé soufré, donc la méthionine, qui fabrique ces groupes méthyl dont on a besoin. On en a besoin de beaucoup à chaque seconde. Mais voilà. Et puis aussi, si ce cycle marche mal, il accumule un résidu qui n'est pas bon pour nous, l'homocystéine. En effet, cette homocystéine, elle est toxique pour nos vaisseaux, par exemple, car elle est un facteur important de bouchage des artères. Elle active les plaquettes, ça fait des bouchons, ça épaissit les parois, ce qu'on appelle l'athérosclérose. Et puis, elle attire aussi l'attention sur un risque plus élevé d'AVC. Si votre homocystéine est élevée dans le sang, il faut demander à votre médecin de le faire doser. Normalement, il devrait partir des bilans systématiques. Et ça, c'est encore pas très connu de nos confrères et consoeurs. Cela permet aussi de découvrir des personnes qui ont génétiquement des manques pour que leur cycle tourne bien. Bah, en effet, cette homocystéine, elle doit être en dessous de 10. Hein. Dès qu'elle est à 11, déjà, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Si elle est entre 10 et 11, bon, 11-10, ça doit être un manque de vitamine B9 et B12 pour faire tourner le cycle. Alors on corrige. Une petite cure correctrice d'un mois de vitamine B à des doses supérieures à des doses nutritionnelles. Ben voilà. Et puis le relais est pris par l'alimentation, la présence de vitamines B9 et B12 préactivées, justement préméthylées, hein, puisque le cycle de la méthylation marche mal, et puis que ces vitamines ont besoin d'être méthylées pour bien fonctionner. Mais si l'homocystéine est très élevée, hein, au-dessus de 15, il est peu probable que ça puisse s'expliquer seulement par une carence. Alors il faut demander, le médecin va demander une analyse spéciale pour rechercher des mauvais fonctionnements d'origine génétique, car on bline, 15% de la population présente une enzyme, MTHF, bon, c'est l'enzyme finale de la B9, dite réductase, nécessaire pour activer la B9, qui ne fonctionne pas bien, car elle est ce qu'on appelle thermolabile. Bon. 1% des personnes, c'est un peu moins, sont porteuses d'une autre forme génétique, l'homocystéinurie hétérozygote, qui par un mécanisme différent, hein, augmente aussi dangereusement les taux circulants d'homocystéine. Alors ces personnes, bah, elles relèvent d'une supplémentation à vie. Hein. On ne va pas changer leur gène actuellement, ce n'est pas accessible, en B9 et B12 préméthylés. Et on trouve aussi plus de défauts de méthylation chez certaines personnes, par exemple les autistes, les fibromyalgiques, qui de ce fait sont plus vulnérables à la pollution.
On fait une courte pause, Jean-Paul ?
Allez !
Et on continue juste après.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
Nutrithérapie & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.
De retour jours sur Nutri Radio avec Jean-Paul Curté, comme chaque lundi de 10h jusqu'à 11h. On parle du foie. Le foie mobilise encore d'autres stratégies essentielles pour défendre l'organisme face aux agressions quotidiennes. On en parle avec le docteur Jean-Paul Curté.
Tout à fait. Alors, on parlait de ce cycle de la méthylation à partir de la méthionine qui a besoin de B9 et de B12. Il faut qu'il tourne bien. Parce que nous aussi, nous fabriquons des déchets, par exemple les radicaux libres, qui sont un des facteurs majeurs de notre vieillissement, et la plupart des maladies des dégénératives dont la fréquence augmente avec l'âge. Alors, quels sont les aliments riches en B9 et en B12? Les légumes verts, les légumineuses, haricots, lentilles, pois, lupin jaune, etc., qui devient la mode.
Lupin jaune, mais je n'avais jamais entendu ça.
Lupin jaune, goûtez le lupin jaune, c'est très très bon.
C'est très cuit.
C'est populaire, absolument, comme toutes les légumineuses. On préconise, vu la pollution, même dans le bio, c'est mieux de les détremper la veille. On va les cuire dans 4-5 volumes d'eau, filtrer, on les rince, et puis voilà.
Et ça pourrait ressembler à quel légume alors? Enfin, quelle légumineuse?
Ça ressemble un petit peu, le lupin, on dirait que ça ressemble à des graines de maïs. Mais c'est un peu différent quand même.
Ok.
Mais c'est très bon, hein, c'est très très bon.
À tester.
Ah oui, oui, oui. Tous les choux, hein, de toutes ordres, on avait déjà parlé du sulforaphane la dernière fois, vous vous rappelez. Mm-hmm. Les oléagineux, les jaunes d'œufs pour la B9, mais bon, attention que la B9, elle est très sensible à la chaleur, comme la vitamine C. Hein. La chaleur même ambiante détruit ces vitamines. Donc, il faut en consommer une partie crue. Toutes les protéines animales pour la B12, tout le monde sait ça, hein, les végétariens, s'ils prennent une vitamine, c'est bien la B12, parce qu'ils savent qu'il n'y en a pas dans les protéines non animales. Donc, étant donné que nous en consommons déjà beaucoup trop de ces protéines animales, il est plus avantageux de l'obtenir par un complément quotidien qui contient un peu tout ce qu'il faut pour pallier les limites techniques de l'alimentation, les vitamines, les minéraux compatibles. Vous rappelez, on a insisté beaucoup là-dessus, pas de fer, pas de cuivre, pas de manganèse. Mm-hmm. Et maintenant, on rajoute des détoxifiants, hein, comme la N-acétylcystéine, vous rappelez, précurseur de notre ami le glutathion. Après, chez les personnes les plus âgées, l'absorption de B12, qui requiert une protéine de l'estomac, le facteur intrinsèque, elle est de moins en moins bien produite du fait de l'avieillissement de l'estomac, et donc l'absorption peut être insuffisante. Hein. Certains font même ce qu'on appelle une anémie macrocytaire par manque de B12, l'anémie de bière-mère. Bon, dans ces cas-là, il faut absorber la B12 sous la langue. Bon, la vieille époque, on faisait une piqûre dans les fesses, c'est quand même plus simple de la prendre sous la langue.
Oui, je pense.
Ouais, c'est plus... Certaines molécules comme la bétaïne, inventée par le plancton et les plantes pour résister au froid et au sel, sont des donneurs de méthyle. On l'utilise pour protéger le foie, par exemple contre la stéatose. Vous vous rappelez ce que c'est que la stéatose? C'est le foie gras qui devient épidémique avec le surpoids et l'obésité. Hein, les pédiatres sont effarés. De chaque semaine, ils voient des enfants maintenant avec des stéatoses. Mmh. Comme il y a 50 ans, on voyait des alcooliques avec des stéatoses et ensuite des cirrhoses, mais seulement beaucoup plus tard. C'est pas très attrayant tout ça. Enfin bon, on en trouve des quantités importantes dans les betteraves, cette bétaïne, les épinards frais en salade. Bon, les épinards cuits, on en a encore un petit peu, mais 10 fois moins. Mais ça reste une bonne source quand même. Le quinoa, hein, qui est une céréale complète sans gluten, c'est super. Le pain complet, bon, mieux sans gluten. La bétaïne est aussi prise en complément d'environ 500 mg par jour si on a besoin d'être vraiment protégé. Elle est prisée des sportifs car elle améliore la production d'oxyde nitrique, le NO, notre vasodilatateur principal, ça améliore la circulation et donc les performances. Mais en fait, je pense que les nitrates qui sont dans le jus de betterave sont les principaux responsables de cet effet dit ergogénique qui améliore l'activité physique. Alors on peut aussi utiliser à la place de la bétaïne, un précurseur de la bétaïne qui s'appelle la choline. Je pense que tout le monde a entendu parler de la choline parce qu'il y a l'acétylcholine, le neurotransmetteur, qui montre donc cette choline les mêmes effets de donneur de méthyle et de protecteur hépatique et antitoxique que la bétaïne. Alors la choline, elle, où est-ce qu'on en trouve? Dans le jaune d'œuf surtout. Le foie des animaux, alors là il faut qu'il soit bio, hein, parce qu'on a vu le foie, on est en plein dans le sujet, c'est l'usine de détoxification. Mm-hmm. Donc si vous bouffez des animaux d'élevage, vous voyez, qui ont été antibiothérapés, tout ce que vous voulez, le foie, il vaut mieux pas le regarder. Hein. Bon, la viande, le poisson, bon, le soja, les légumineuses et les noix. Alors, malgré le fait qu'on consomme beaucoup trop de protéines animales, en particulier viande et poissons, les enquêtes montrent de sérieux manques d'apport en choline, qui devrait être de 450 à 550 mg par jour. Le plus judicieux, c'est quand même d'augmenter la présence de soja dans son assiette. Il y en a des très très bons. Si vous n'avez pas l'habitude de manger du soja, essayez le tofu soyeux. C'est le préféré des personnes âgées, c'est un peu comme un flan. Le tempeh, le tofu normal, il est un peu dur, un peu. Il
est pas oui, très, c'est particulier. Très, hein, oui.
C'est, oui, ça n'a pas un goût génial. Le tempeh non plus, c'est pire. Mais il y a le tempeh d'okora qui est super bon. Donc, si vous voulez, ces petits détails sont importants parce que si on n'aime pas, évidemment, on ne s'approprie pas le truc. Et puis, du tofu fermenté à tartiner, qu'est-ce que c'est bon? Essayez, vous verrez. Il y en a à tous les goûts avec de l'ail, avec des herbes, avec du basilic, tout ce qu'on veut. Bon, les œufs avec le jaune sont une bonne source, mais alors il y a une condition, c'est que notre flore intestinale soit restaurée, sinon la choline, par une mauvaise flore inflammatoire, la dysbiose, va transformer la choline en TMAO, qui lui est un facteur dont on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'il augmente les risques de toutes les pathologies dégénératives.
Ah oui.
Sinon, on peut aussi recourir à des compléments, d'autant plus justifiés quand on avance en âge, quand on a des problèmes de mémoire. Vous rappelez, donc la choline, bien sûr, rentre dans la composition de l'acétylcholine, le neurotransmetteur principalement impliqué dans la mémorisation et puis qui défaille dans la maladie d'Alzheimer. Mais attention, cette acétylcholine n'agit pas toute seule. Elle agit, elle fait de la neurotransmission en présence de TPP. Alors, qu'est-ce que c'est que ce TPP? C'est le coenzyme actif de la vitamine B1. Il vaut mieux alors donner cette vitamine sous forme soluble dans les graisses, étant donné que les neurones, vous vous rappelez, sont entourés de beaucoup d'acides gras, par exemple la myéline. Et cette B1 soluble dans les graisses, la plus utilisée, c'est la benfotiamine, qui existe en complément, voilà, en général de 80 mg.
On a plein de choses à tester, hein.
Ben écoutez, tester, il faut espérer qu'on n'en a pas trop besoin, mais si on en a besoin, ils sont là.
Ah non, mais les aliments dont vous nous avez parlé là tout à l'heure, ça m'a donné envie. Il est presque midi, presque la pause déj, ça donne faim.
Ben voilà, alors très bien. Ben, écoutez, testez ça, vous verrez toutes ces formes, par exemple, de soja pas très connues. Elles sont délicieuses. Bon, il y a une époque où ces aliments n'étaient pas très, très réussis sur le plan gustatif, mais il y a eu beaucoup de progrès, heureusement.
Mais vous le trouvez en grande surface directement?
Alors, je ne sais pas si on trouve en grande surface ces tofu soyeux, ce tempeh d'okora et le tofu fermenté à tartiner, je ne sais pas. Moi, j'achète en boutique bio parce que je préfère consommer bio, pour toutes les raisons qu'on a vues, moins de pesticides, plus de polyphénols, etc. etc. Bon, mais ceci dit, oui, peut-être qu'on peut les trouver certainement sur Internet, je pense.
Ok. Merci beaucoup, Jean-Paul Curté.
Mais je vous en prie, passez une très bonne semaine et puis la prochaine fois, on verra comment se réparer des dégâts faits par les contaminants qu'on n'a pas pu bloquer.
Merci beaucoup Jean-Paul, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Nutri Therapy & Co. Jean-Paul Curtet sur Nutri Radio.